Nous allons rapidement parler du sceau, qu'est le baptême, du sceau S-C-E-A-U, le sceau. Dans une alliance, et nous savons que avec le Seigneur notre Dieu, il y a des alliances, c'est la manière de Dieu, des alliances, voyez-vous, des alliances, au contour très net. Et Dieu fait entrer dans l'alliance, il faut entrer dans l'alliance. Pour être sauvé, il faut entrer dans l'alliance, n'est-ce pas? Entrer dans l'alliance nouvelle, aujourd'hui, fondée sur le sang de Jésus, sur le sang, n'est-ce pas? Quand Jésus a présenté la coupe, il a dit, ceci est la nouvelle alliance en mon sang, nouvelle alliance. Alors, il faut entrer dans l'alliance. Et quand on entre dans l'alliance, vous pouvez remarquer, n'est-ce pas, ce qui s'est passé. Il y a eu cinq grandes alliances. Grandes alliances. Bon, je ne vais pas reprendre cet enseignement-là, mais rappelons-nous l'alliance, par exemple, n'est-ce pas, avec Abraham. Hein, Abraham. Alors, cette alliance avec Abraham, n'est-ce pas, il y avait des clauses, et il y avait un sceau à apposer, et le sceau à apposer du côté de l'homme, du côté d'Abraham, n'est-ce pas, et de sa descendance, c'était la circoncision. Bien. Quand Moïse arrive, eh bien, on va sceller l'alliance par l'aspersion du sang sur le livre, sur le peuple, le livre que Moïse avait écrit contenant les paroles de l'Éternel, sur le peuple, n'est-ce pas? Voilà. Alors, on scelle l'alliance. Dieu, lui, la scelle aussi de son esprit. Il veut que ses promesses soient inscrites dans le livre autant que les clauses même de l'alliance. Il scelle donc, et l'alliance est scellée par les deux parties. L'alliance est un traité entre Dieu, n'est-ce pas, qui en prend l'initiative, naturellement, et l'homme. Eh bien, il y a toujours réciprocité dans une alliance, dans un traité. Dieu appose son sceau, n'est-ce pas? Il faut que l'homme appose le sien. Hein? Chacun apporte sa signature, si vous voulez. Alors, Dieu a apposé son sceau quand il s'agit d'un croyant qui a reçu la grâce du pardon de ses péchés. Ben, il a apposé son sceau, nous l'avons lu, notre frère l'a lu l'autre jour, là, marqué de son sceau dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, n'est-ce pas? Ils sont marqués de son sceau, et puis nous avons vu dans les Éphésiens, scellés du Saint-Esprit, le mot grec qui est là, c'est le mot phragis, n'est-ce pas? Qui veut dire une marque apposée, une marque. Scellé du Saint-Esprit. Et notre frère nous a dit qu'il ne s'agissait pas là du baptême du Saint-Esprit, mais qu'il s'agissait là, n'est-ce pas, de ce Saint-Esprit par lequel Dieu transforme un homme pécheur, n'est-ce pas, en un homme pardonné et régénéré par le Saint-Esprit. Eh bien, il faut que le croyant, celui qui a reçu cette régénération, n'est-ce pas, appose son sceau aussi, et le baptême est le sceau qu'il va apposer, n'est-ce pas, à son acceptation de l'alliance, et notamment dans cette alliance d'un sauveur en Jésus-Christ et d'un Seigneur. Nous allons voir maintenant le baptême en tant que témoignage. Nous avons vu, n'est-ce pas, l'engagement. Et nous allons voir le baptême en tant que témoignage. Le baptême lui-même est un témoignage nécessaire. Le baptême des enfants, des petits-enfants, je crois l'avoir déjà indiqué, se trouve évidemment, lui, notons-le bien, privé de tout témoignage personnel. De tout témoignage personnel. Et ce baptême des enfants, si on le pratique, n'est-ce pas, et si on persiste à le pratiquer, eh bien, alors, il accrédite la notion d'un salut indépendant de l'individu lui-même. Parce que ce n'est pas le nouveau-né, n'est-ce pas, qui peut savoir ce qu'on fait avec lui. Bon, il est absolument passif. Bon, Et rien n'est éveillé encore en lui, c'est un petit, comme l'a dit quelqu'un, n'est-ce pas, de manière évidemment un petit peu, peut-être pas très élégante, mais enfin il a dit c'était un médecin. Alors, on peut lui pardonner, enfin, c'est un petit sac de chair, c'est un petit être de chair, oui c'est vrai. L'âme n'est pas est encore presque virtuelle, n'est-ce pas? Elle va s'éveiller, mais l'esprit va s'éveiller, tout ça, mais les réactions sont des réactions de la chair. C'est un petit être de chair. Bah, bon, alors, il n'est pas question, n'est-ce pas, d'un salut accepté. Par conséquent, n'est-ce pas, le baptême des enfants, c'est un salut, puisqu'on on dit bien, n'est-ce pas, que par ce baptême, les enfants sont sauvés. Alors il faudra qu'ils confirment plus tard, bon, mais ils sont sauvés déjà, n'est-ce pas? Alors c'est un salut indépendant de l'individu, et ça n'existe pas. C'est déjà une hérésie, n'est-ce pas, à ce point de vue-là. L'enfant qui est baptisé se verra plus tard, quand son esprit s'éveillera, impliqué dans un engagement dans lequel il n'était pour rien. Bon, si bien qu'on arrive à l'église de multitudes, n'est-ce pas? L'Église des multitudes. Hein. Alors, aussi bien du côté protestant, qui a pratiqué ce baptême des enfants, que du côté catholique, n'est-ce pas? Alors, on compte des catholiques, un tas de gens qui sont catholiques, qui sont chrétiens, qui sont disciples du Seigneur Jésus. Hein. Ils n'ont absolument... Ils se sont engagés à rien, n'est-ce pas? Ils sont absolument en dehors de toute vérité. C'est donc une religion, n'est-ce pas? Ils sont dans une religion qui a été... échafaudé sur la tradition à partir d'une petite origine biblique, n'est-ce pas, mais qui est absolument en dehors de toute vérité. Alors, dans cet engagement qui est pris quand un enfant, un nouveau-né est baptisé, il a un parrain, il a une marraine, n'est-ce pas, et ce parrain et cette marraine sont censés prendre engagement pour lui, vous savez, ils le font d'une façon tout à fait formaliste, ça n'a aucun sens, et puis on ne peut pas s'engager pour quelqu'un. Au contraire, donc j'ai dit cela pour vous montrer que, au contraire, le baptême du croyant, celui qui peut croire, qui librement a exercé la foi, alors ce baptême revêt le sens d'un témoignage volontaire, un témoignage délibéré, n'est-ce pas? Que les assistants, c'est pour ça qu'il faut que le baptême se fasse devant une assistance, les assistants, n'est-ce pas, vont recueillir ce témoignage, et parmi ces assistants, il y aura des inconvertis, et ces inconvertis, n'est-ce pas, sont des gens qui ont été attirés là, et peut-être pour certains, leur cœur commence à s'ouvrir à Dieu, mais en tout cas, le témoignage du baptême, n'est-ce pas, va peut-être les amener à s'ouvrir à Dieu. Ça s'est vu, beaucoup de gens qui se sont convertis après avoir vu un service de baptême, après avoir assisté à un service de baptême. C'est un excellent moment de témoignage. C'est pour ça qu'il faut que le service du baptême soit saint lui-même, saint. Et le vrai baptême, c'est celui qui est exactement conforme aux données de la Bible, eh bien, c'est un témoignage. Le baptême d'un converti, de quelqu'un qui est réellement converti, qui est plein du feu de son amour pour Jésus, comme la pécheresse pardonnée, qui vient oindre les pieds de Jésus, eh bien, alors, ce baptême-là, le baptême d'un véritable converti, est un témoignage pour les assistants et pour l'Église aussi. Il était fréquent dans l'Ancien Testament que l'Éternel demanda à ses prophètes d'appuyer la parole qu'il leur donnait par certains actes, des actes qui étaient des signes, et que Dieu leur indiquait lui-même. Bon, c'est pas eux qui avaient inventé ces signes, n'est-ce pas, c'était Dieu qui le leur indiquait. Un jour, l'Éternel dit à Jérémie, eh bien, tiens, tu vas acheter une ceinture, tu vois, à la mettre sur toi. Et puis alors tu vas aller la porter dans un lieu près d'une rivière, là. C'est appelé l'Euphrate, en réalité, c'est pas le fleuve l'Euphrate, c'est une petite rivière qui portait un peu ce nom. Et alors tu vas mettre là, n'est-ce pas, dans le creux d'une roche, là. Tu vas la laisser 8 jours. Tu viendras la chercher. Et puis quand Jérémie va chercher sa ceinture, elle est toute abîmée, moisie, n'est-ce pas? Toute abîmée, moisie, elle est impropre, on ne peut plus la mettre, n'est-ce pas? Elle ne sert à rien. L'Éternel va dire, bon, eh bien maintenant tu vas aller avec cette ceinture-là, tu vas aller devant le peuple. Va lui montrer ce qu'est devenu la ceinture. Hein? As-tu? Et puis, tu lui diras, eh bien, le peuple est vis-à-vis de l'Éternel comme cette ceinture. Ben, voyez-vous, il y avait des choses, n'est-ce pas, des actes, signes, que les prophètes avaient à accomplir pour appuyer leurs paroles. Un jour, le prophète Ézéchiel perce la muraille de sa maison pour sortir ses effets de voyage par le trou, alors qu'il y avait une porte à sa maison, n'est-ce pas? Alors, voyez un peu les gens, n'est-ce pas, voir le prophète qui retirait les pierres, les cailloux, comme ça, avec la main, hein, et il perce un trou, et puis il passe son baluchon par le trou. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce prophète, là? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et puis alors, le soir, il sort, il s'en va, comme partent les exilés, lui avait dit l'Éternel, tu vas partir comme partent les exilés, n'est-ce pas? Alors, tout le monde est là, vient autour de lui. Qu'est-ce que ça signifie? Et là, l'Éternel, le prophète, n'est-ce pas, va délivrer la parole de l'Éternel, appuyée par ce signe, n'est-ce pas? Et alors là, c'est plus saisissant, ça a été saisissant. Et le Seigneur ira jusqu'à demander à son prophète Osée d'épouser une prostituée. Une prostituée. Lui, un prophète. Lui, un homme de Dieu. Une femme impure. Une femme souillée. Et alors, naturellement, il arrive ceci, c'est que le ménage d'Osée et de cette femme n'est pas très bon, n'est-ce pas? C'est un ménage troublé. Et alors, les gens le voient. Au début, on murmure, on sait que le prophète de Dieu pousse une femme comme ça, n'est-ce pas? On commence par juger, puis alors, après, la parole de l'Éternel vient. Voilà. Eh bien, moi, j'ai pour épouse un peuple qui s'est prostitué. Voilà, n'est-ce pas? Vous voyez la situation du prophète? Eh bien, c'est celle de l'Éternel. Il est avec, il a pour épouse un peuple prostitué. Vous voyez comme ça a été saisissant. Jérémie, une autre fois, prendra un beau vase de terre, un vase magnifique, et ça avait de la valeur, vous savez, un vase de terre. Et puis alors, il vient devant tout le peuple, n'est-ce pas, ce beau vase tout neuf, n'est-ce pas? Vous voyez, et ça avait de la valeur. Hein. Et puis alors, il le prend et flanc, il le brise sur le rocher. Oh. Oui, et alors il déclare, il proclame, c'est ainsi que je briserai le peuple de cette ville. Voyez-vous, n'est-ce pas, les signes de l'Éternel. Josué, n'est-ce pas? Josué, qui va monter avec le peuple à l'assaut de la ville d'Aï pour la deuxième fois, lui n'y était pas monté pour la première fois, mais il va y monter avec le peuple, et alors l'Éternel lui dit, prends ton javelot et tends-le vers la ville. Et il est loin, loin de la ville, il y a une embuscade derrière la ville, tends ton javelot, et puis ne bouge plus. Alors il va rester comme ça, lui, le général, hein, le chef de l'armée, pendant tout le temps de l'opération, pendant tout le temps de la prise de la ville. Il va rester comme ça, à durer longtemps. Au début, le soldat, on dit, qu'est-ce qu'il fait, le général? Il ne lance pas son javelot? Non, il le tient. Hein, il ne bouge pas, le javelot ne part pas, non. Éternel lui avait dit de faire ça, il le fait. Hein, il est un signe. Un signe qui cristallise, donne un élan particulier à la foi de ces gens, n'est-ce pas? Oh, on dit, il est comme ça, l'Éternel lui a dit de rester comme ça, et il n'a pas peur de paraître un peu drôle, un peu, il n'a pas peur de l'opprobre, alors il est comme ça, et il a obéi, et la ville d'Aï a été prise, n'est-ce pas? méprise. C'était une ville que l'Éternel livrait entre ses mains. Alors, n'est-ce pas, il faut penser à toutes ces choses-là, voyez-vous. C'est la manière de l'Éternel. Et le baptême est un signe. On ne voudrait pas que dans l'alliance qui est entièrement spirituelle, n'est-ce pas, il y ait des choses qui soient tangibles, matérielles. Mais le Seigneur l'a voulu. Il y a des gens qui spiritualisent tellement qu'ils disent, oh, non, non, l'eau, le baptême, la cuve du baptême, tout ça, non, 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 non. Nous, nous sommes, c'est pas, nous sommes tellement au-dessus des choses matérielles que nous n'obéissons pas. Le Seigneur a dit cela. Ah. C'est pourquoi il importe que lors d'un service de baptême, la parole de Dieu soit clairement lue et que tout se déroule en la présence du Seigneur et que, de par le Saint-Esprit, le témoignage qu'est le baptême puisse opérer dans les cœurs. Et nous allons voir maintenant le baptême en tant qu'acte d'obéissance. Le baptême est un acte d'obéissance. Les signes en acte que Dieu demande à l'homme, et je viens de vous montrer par quelques exemples qu'il y en avait, n'est-ce pas, dans l'Ancienne Alliance, les signes en acte, donc, que Dieu demande à l'homme, sont avant tout destinés à mettre à l'épreuve et à mettre aussi en évidence l'obéissance prompte et non discuteuse. D'abord ça, n'est-ce pas? Le Seigneur donne une occasion, une première occasion, de manifester sa foi. Les fêtes juives, par exemple, étaient cela aussi, n'est-ce pas? Manifester sa foi, sa confiance en l'Éternel. La foi conduit à deux choses. Elle conduit à un choix, d'abord. J'ai choisi la voie de la vérité, dira le psalmiste, psaume 119. J'ai choisi, librement, je choisis la voie de la vérité. Un choix, et un choix libre, n'est-ce pas? Et puis, deuxièmement, elle conduit à l'obéissance. Donc, deux choses, un choix et l'obéissance. Quand on a choisi, n'est-ce pas, l'obéissance. Choisis la vie ou la mort. J'ai mis devant toi la vie ou la mort, choisis, n'est-ce pas? Choisis. Si l'on a choisi la vie, alors immédiatement, la foi va faire autre chose, elle va obéir. Paul indique que son apostolat consiste à amener au nom de Jésus-Christ les païens, tous les païens, à l'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi. Et nous pouvons dire en effet que dans le mot pistis, le mot grec, n'est-ce pas, qui est traduit par foi, qui est quelquefois traduit par fidélité. Ce mot, pistis, pistos, est traduit par foi ou par fidélité. Fidélité, nos traducteurs l'ont traduit par fidélité, quand il s'est agi de Dieu. Ils n'ont pas osé dire la foi de Dieu. Pourtant pas dénué de vérité. Dieu a foi en son œuvre, vous savez. Et la foi, il entreprend son œuvre dans le risque. Dans le risque, en somme, n'est-ce pas? Voyez-vous? Dieu a foi en son homme. Enfin, on traduit la fidélité de Dieu, ou le pas traduit. Et c'est le même mot. Attention, c'est le même mot, n'est-ce pas? Et le mot pistis, donc, désigne en réalité, très exactement, hein, une foi alliée à l'obéissance. Il y a la notion d'obéissance, c'est pourquoi, n'est-ce pas, ça donne fidélité. La fidélité, c'est une foi, en somme, qui obéit, n'est-ce pas? Eh bien, l'obéissance est incluse dans la signification de ce mot, si bien que si l'on dit « j'ai la foi », « j'ai foi », et qu'on n'obéisse pas, on ment. Tout simplement. On ment. Parce que, n'est-ce pas, on utilise le mot « foi » qui vient de la traduction de « pistis » et on dit un mensonge. Parce que si on dit « j'ai la foi », j'ai la foi et je le montre, et je le manifeste. L'évangile et la prédication de Jésus-Christ ont pour but d'amener toutes les nations à l'obéissance, dit l'apôtre Paul dans le chapitre 16 des Romains. Nous savons que Jésus, je n'insiste pas, a obéi bien qu'il fût fils, Nous savons que c'est par l'obéissance dans les choses qu'il a souffertes et qu'il a obtenu cette grâce magnifique d'être sauvé de la mort, n'est-ce pas? Dieu nous a élus, dit l'apôtre Pierre, pour que nous devenions obéissants. Le but de notre régénération, de notre rédemption, c'est d'être obéissants. Toute discussion, par conséquent, tout marchandage, on marchande souvent l'obéissance, on marchande la parole de Dieu. Et n'écoutez jamais pas des gens qui vont mettre en discussion la parole de Dieu. C'est déjà un péché, ça, d'entrer dans la mise en question de la parole de Dieu. Sous prétexte peut-être d'élucider ceci ou cela, n'acceptez jamais ça. N'acceptez pas, vous offensez l'Éternel si vous mettez la parole de Dieu en question, elle n'est pas faite pour ça. Alors, tout marchandage et toute discussion sont indignes de Dieu. Lorsqu'autrefois les auxiliaires de Dieu obéissaient, ils le faisaient sans discuter. J'ai parlé de Josué, par exemple, n'est-ce pas? Et il ne va pas dire au Seigneur, Seigneur, mais il faudrait peut-être que je lance mes hommes, il faudrait peut-être que je sois à leur tête quand même, il faudrait peut-être que je bouge un peu, je marche, si je reste comme ça, je vais rester au même endroit pendant tout le temps et je vais rien faire. Moi, le conducteur des hommes, non, dis rien, reste comme ça. Ah, c'est magnifique cette foi, cette confiance, n'est-ce pas? Et alors là, l'homme, voyez-vous, l'homme disparaît. Dans ces signes-là, n'est-ce pas, Dieu fait disparaître l'homme. L'homme n'est pour rien. Josué, c'est pas l'habileté qu'il avait de lancer le javelot, il était peut-être très habile au lancer du javelot, hein? Ah, il aurait peut-être touché le roi de Daï, peut-être il l'avait lancé en plein cœur, mais, n'est-ce pas? Non, c'est pas l'homme qui va le faire, c'est Dieu qui va le faire. Mais ce que Dieu demande à l'homme, c'est l'obéissance. Et l'obéissance ouvre la porte au miracle. C'est l'obéissance qui ouvre la porte au miracle. Ne demandons pas les miracles si nous-mêmes, n'est-ce pas, nous n'ouvrons pas la porte par l'obéissance. La théologie, vous savez, la théologie, toute la théologie est mauvaise parce qu'elle est discuteuse, elle discute la parole de Dieu, elle discute la Bible. Il y a un auteur, c'est Buchmann, je crois, Bergman, qui a écrit un livre, c'est un pasteur, docteur en philosophie, même allemand, évangélique, qui a écrit un livre Tempête sur la Bible. Et il montre combien cette théologie moderne fait de mal, n'est-ce pas? Quel mal elle fait. Parce qu'elle est discuteuse, parce qu'elle modifie le mode d'obéissance sous toutes sortes de raisons intellectuelles ou de traditions, n'est-ce pas? La théologie est dans son ensemble hérétique. Jésus lui-même a obéi dans le baptême, et ça, n'est-ce pas, ça devrait nous marquer, ça. À quoi, devant un tel fait, servira une théologie transformatrice? Elle fera triompher la volonté de l'homme, et cette théologie, n'est-ce pas, qui discutera, qui transformera le baptême, nous ramènera à l'offrande de Caïn. Seigneur, voilà, je te donne, moi, ce que je crois devoir te donner, il faut que ça te soit agréable, Seigneur. Et le Seigneur détourne son regard. Voilà. La véritable foi porte à l'obéissance et elle saisit le baptême. La véritable foi saisit le baptême comme le moyen premier de se donner la joie d'obéir, car il y a une joie dans l'obéissance. Elle se donne la joie d'obéir. Enfin, c'est en somme offert à celui qui, au néophyte, si vous voulez, au catéchumène, celui qui entre, c'est pas qui vient d'être régénéré. Alors, comment il va obéir? Tiens, il y a le baptême, justement. Ouh! N'est-ce pas? Il va tout de suite demander le baptême, n'est-ce pas? Et on voit ceux qui sont vraiment convertis, n'est-ce pas? Ah, moi je vais être baptisé. Et nous pouvons dire que l'obéissance est bien davantage qu'une soumission. On l'a appelée une soumission. Je n'aime pas tellement ça. Je sais bien que le terme, le verbe soumettre se trouve, on le trouvera dans la concordance, mais ce n'est pas ce qu'il faut appliquer à l'obéissance et à la plupart même des obéissances. C'est pas ça. Ça, il faudrait que nous regardions l'obéissance, je vais parler de l'obéissance dans le baptême, mais disons, n'est-ce pas, toute obéissance, il en est de même de toute autre obéissance. Il faut regarder l'obéissance à la parole de Dieu comme autre chose qu'une soumission. Se soumettre. D'ailleurs, voyez, n'est-ce pas, l'homme n'accepte pas trop, ça c'est un point de vue, surtout aujourd'hui, n'est-ce pas, qui achoppe, se soumettre. Bien sûr, on va se soumettre, on va devenir esclave de Dieu, mais c'est pas ça qu'il faut retenir. L'apôtre Paul dit bien, quand il parle d'esclave de Dieu, je dis ça, n'est-ce pas, à cause de la faiblesse de la chair, mais il s'exprime ainsi. Il y a tout autre chose. Il faut bien se dire que la parole de Dieu est créatrice. Ah, est-ce qu'on sait ça? Est-ce qu'on s'en souvient? Et ce n'est pas une certaine parole de Dieu qui est créatrice, c'est-à-dire que la lumière soit, ou que les eaux du dessus se séparent avec les eaux du dessous, n'est-ce pas? C'est pas seulement cette parole-là qui est créatrice. C'est toute parole de Dieu qui est créatrice. Toute parole de Dieu est créatrice. Elle a une force cachée en elle, qui est la force créatrice de Dieu. L'Éternel dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Ah, n'est-ce pas? Ainsi, obéir dans le baptême, notamment, n'est-ce pas, c'est obéir à la parole de Dieu. Il y a des finaux partout, vous savez, n'est-ce pas? Il y a des finaux, des gens qui se glissent, qui se faufilent. Alors, il y en a un qui disait une fois, ah, mais c'est pas dit de se faire baptiser, hein? C'est pas dit. Non. Il y a dans l'évangile de Matthieu, n'est-ce pas, faites des disciples et baptisez-les. Alors, c'est dit ça au pasteur de baptiser. Il n'est pas dit aux gens de se faire baptiser. Ouais, vous rendez compte? Alors, je ne sais pas qui les pasteurs vont baptiser. Il n'y a personne qui veut le baptême, n'est-ce pas? Mais il est bien écrit ceci. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Et ça, c'est le jour de la Pentecôte, n'est-ce pas? Premier message d'évangélisation de Pierre. Voilà, alors les gens disaient, qu'est-ce qu'il faut que nous fassions? Ils sont touchés, n'est-ce pas? Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Hein? Voilà, alors, par conséquent, il y a là bien cet ordre, n'est-ce pas, qui retentit sur toute l'Église. Et puis, Jésus a lui-même dit dans Marc 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Alors, ce n'est pas la peine de vouloir échapper par là. La parole de Dieu, n'est-ce pas, est bien celle-ci, « Soyez baptisés, faites-vous baptiser. » Obéir à la parole de Dieu, c'est accomplir la volonté de Dieu. C'est donc, puisque la parole de Dieu est créatrice, alors, obéir à cette parole, c'est entrer dans l'ordre de la création. L'ordre de la création, le chapitre 4 de l'Apocalypse nous dit que c'est par sa volonté, par la volonté de Dieu, que tout a été créé. Et que toute chose subsiste même, n'est-ce pas? Vous voyez, toutes choses ont été créées par la volonté de Dieu, et par la volonté de Dieu aussi, toutes choses subsistent. Bon, par la volonté de Dieu accomplie. Alors, notre obéissance va accomplir la volonté de Dieu, qui est créatrice, qui porte en elle une puissance, une force. Vous voyez, par conséquent, ce qui va sortir du baptême. Ben, le baptême n'est pas la purification des péchés, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas un geste sans conséquence. Attention, il n'a pas de pouvoir, si vous voulez, en lui-même de pouvoir, pour régénérer, pour accorder le pardon des péchés et la rédemption. C'est, n'est-ce pas, la grâce de Dieu qui le fait directement dans le cœur du croyant. Mais attention, le baptême n'est pas sans conséquence. Conséquence en tant que, en forme de bénédiction dans les lieux célestes en Christ, des bénédictions sur toute la vie qui vont déjà, n'est-ce pas, se préparer pour la vie du baptisé. Parce que la parole est créatrice, et si l'on accomplit, on entre dans l'ordre de la création. On entre. Si on n'accomplit pas, on reste en dehors de l'ordre de la création. Si l'on accomplit, on se lie à Dieu par Jésus-Christ, et on entre vraiment dans la marche dans la vérité. Marcher dans la vérité, c'est pas seulement marcher avec une petite mémoire, n'est-ce pas, bien chargée de versets bibliques, hein? Marcher dans la vérité, c'est marcher en accomplissant la parole de Dieu. Hein? Voilà, c'est marcher en faisant la volonté de Dieu. Et c'est, disons, glorifier le Seigneur. Et qui peut désobéir? Qui désobéit à la parole de l'Éternel, que ce soit pour le baptême ou pour autre chose? Jérémie nous dit, ce sont les sages. Ce sont les sages. Les sages, ceux qui prétendent être sages. Et Jérémie d'ajouter, ces gens-là ont méprisé la parole de l'Éternel, alors, mais quelle sagesse ont-ils? Quelle sagesse? Qu'est-ce que c'est cette sagesse-là? Ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Quelqu'un qui ne se fait pas baptiser. Jérémie nous dit, ceux qui résistent, qui désobéissent à la parole de l'Éternel, sont encore les scribes, ou les écrivains, ou comme dit Paul, les disputeurs de ce siècle, les raisonneurs, les disputeurs, toute cette engeance-là, n'est-ce pas? C'est une engeance fâcheuse devant l'Éternel que ces gens-là. Ce sont des gens qui sont dans le trouble, dans le mal. Enfin... Et Jérémie déclare que la plume des scribes est mensongère. La plume des scribes, méfiez-vous de la plume, de pas mal de livres, n'est-ce pas? Faites bien attention à cela. Si elle est obéie, la parole, alors, n'est-ce pas, va, elle, mettre en disponibilité sa force créatrice, sa puissance. Et c'est pour ça que dans le livre des Actes, au chapitre 19, il nous est dit, et c'est Luc qui rédige les Actes, là, il nous parle de Paul, là, en Asie, et il nous dit que la parole croissait en puissance et en force. C'est, la parole allait en se développant, gagnant des âmes de plus en plus, n'est-ce pas? Bon, c'est très bien dans cette Asie mineure. Mais le livre des Actes, c'est ce qu'il dit, c'est le Saint-Esprit qui parle, n'est-ce pas? La parole de Dieu croît en puissance et en force. Ah, il y a une force dans l'obéissance. La parole de Dieu est une épée, l'épée de l'Esprit, n'est-ce pas? Alors, si on néglige ou si on refuse le baptême, eh bien, on néglige pour le moins l'épée. Mais encore, on va... l'amener à se tourner contre soi-même. L'épée va se tourner contre soi-même. Et c'est ainsi, n'est-ce pas, qu'une bonne partie du christianisme est ravagée par toutes sortes de maux et, disons, d'absence de bénédictions. C'est surtout le vide des bénédictions. Le vide. Et puis, disons que obéir à la parole de Dieu, et notamment dans le baptême, et d'abord dans le baptême, eh bien, c'est échapper... Ne pas obéir, je veux dire, c'est échapper à la sanctification. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière, dit Paul. Tout est sanctifié, n'est-ce pas? Et Jean 17 aussi, n'est-ce pas, la prière sacerdotale de Jésus, n'est-ce pas? Il y a cette demande du Fils au Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole. La parole a une force créatrice. N'est-ce pas? Donc, le baptême ne sera pas seulement un signe, si vous voulez, n'est-ce pas, nécessaire, mais absolument exempt de toute conséquence. Pas du tout. Du côté des bénédictions à venir, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Et enfin, n'est-ce pas, je dirais que... l'obéissance d'un seul, vous savez qui c'est ce seul, n'est-ce pas, l'obéissance de Jésus-Christ, l'obéissance d'un seul a justifié beaucoup d'hommes. Hein? Et nous voulons, nous, que notre témoignage soit fort dans le baptême, dans le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Moi, je ne vois pas même, n'est-ce pas, je ne vois pas comment Dieu, n'est-ce pas, qui est connu à travers les Écritures, comment Dieu peut... vraiment, n'est-ce pas, baptisé du Saint-Esprit pour le témoignage, car le baptême du Saint-Esprit fait d'un disciple un témoin. Le disciple, n'est-ce pas, baptisé du Saint-Esprit devient un témoin. Il a la force du témoignage, il a l'amour du témoignage, il a la sagesse du témoignage, n'est-ce pas? Alors, je ne vois pas comment le Seigneur, n'est-ce pas, peut se servir de quelqu'un comme témoin qui a dit, moi, quand j'étais petit, j'étais nouveau-né, je sais, on me l'a dit, n'est-ce pas? J'ai même encore, n'est-ce pas, les menus du repas, hein, de baptême, oui. C'est vrai, parce que moi, je les ai. J'ai encore. Eh bien, n'est-ce pas, on peut dire, je sais que j'ai été baptisé Enfin, il y a écrit en lettres dorées, n'est-ce pas, menu de repas pour le baptême de Robert Mampiot. C'est très beau, c'est magnifique. Ils se sont bien régalés. Moi, j'avais un biberon ce jour-là. Mais enfin, n'est-ce pas, disons, n'est-ce pas, ceci, c'est que ceux qui s'en tiennent à ça, n'est-ce pas, à cette obéissance, n'est-ce pas, eh bien, ils sont, évidemment, ils se placent en dehors de toutes les bénédictions de Dieu. L'obéissance d'un seul a justifié beaucoup d'hommes. Et si nous voulons, nous, par le témoignage, n'est-ce pas, amener beaucoup d'hommes à recevoir la justification de Jésus-Christ, il faut que nous amenions non seulement la force du témoignage, mais la sagesse du témoignage, mais l'amour, et l'amour dont nous nous serons nous-mêmes servis pour l'obéissance.